ready?
Ready for what?
Coup de sûr.
Welcome
dans le mid. What?
Avec Pierre Couture.
Pierre, c'est un gars qui travaille 7 jours sur 7.
Et Nick Cloutier.
Proposant.
Couture.
Donc ça va brasser.
Dans le mid. Radio. X.
Ouais, 10h01 minute. Bienvenue à Couture dans le mid pour les deux prochaines heures en direct de la Grande Allée. À Québec, Nick, comment vas-tu?
Salut, ça va? Très bien.
Tu vas bien?
Ben, ouais. Et toi?
Ah, ben,
Pierre.
Non, ben, tout va bien. Écoute, je regarde les marchés boursiers, tout va bien, certain.
Bon.
Les bourses sont dans le vert, pas à peu près. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des bons résultats financiers. Les entreprises font du cash. Les entreprises font 20, 22, 25 % de profit, marge bénéficiaire nette.
Tout va bien.
Ben, je sais pas, moi, à 25 % je suis heureux. T'es-tu heureux, toi?
À 25? Ouais.
Parce que oui, hein, si tes rendements faisaient 25 %,
ça le ferait.
Ça serait pas pire. Fait que c'est ça qu'on voit beaucoup à Wall Street. Et au Canada aussi, en passant, les entreprises font du cash.
Celles qui restent, là?
Bien, celles qui restent. C'est ceux qui sont à les, celles qui sont à la bourse. En tout cas, c'est des entreprises publiques. Elles émettent à tous les trois mois des résultats financiers. Puis vous regardez les résultats financiers, puis c'est vert, vert, vert. Merci, bonsoir. Donc, c'est ce qu'on voit. Et là, je regarde un peu les... comment t'appelles ça? Les ratios cours-bénéfices, le S&P 500, à peu près à 20 fois les profits, puis la moyenne des 5 dernières années, t'as 22. Donc là, t'as des analystes qui disent, bien, les bourses sont intéressantes actuellement. On voit ça. Mais il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas de hasard. Tu fais 20, 22, 25 % de profit, même 27 % de profit.
Là, à 27, ça commence à être...
commence à être gargantuesque.
Quand même.
Et Trump qui en remet, puis là, il a planté les pétrolières parce qu'il a dit pendant les derniers mois, moi, je suis en train de me battre en Iran. Puis là, vous autres, vous faites des profits sur le dos des consommateurs.
Monter les prix.
Ouais, mais ça, c'est un peu. Quand vous... Ceux qui suivent la politique américaine, là, un président qui rentre en midterms ou avant des élections va toujours faire ça. Biden l'a fait. Il y a d'autres présidents qui l'ont déjà fait. De,
ouais, comme, c'est pas de ma faute, c'est la vôtre. Là.
Ben, comme sermonner un peu les prises de profit des pétrolières. Les pétrolières, eux autres, on sait que 2050, c'est pas mal la fin. Hein? C'est-tu la fin du pétrole, 2050?
Pour certains, je pense pas, Pierre.
Pour certains, ça serait la fin.
Ben voyons.
Mais pour les pétrolières américaines, je pense pas qu'il y ait de deadline 2050. Et au-delà
de ça... Je pense pas non plus.
Parce que quand tu regardes les projections de consommation de pétrole, on est à quoi, là? 99, 100 millions de barils par jour de consommation, Nick.
100 millions?
100 millions de barils par jour de consommation autour de...
Il faut qu'il en sorte pareil.
Ben, il faut qu'il en sorte. Il n'y a pas juste. C'est parce que nous autres, si on se fait croire, là, les voitures électriques, ça va être juste
non,
ça.
Oubliez ça. Là.
C'est pas juste ça. Là. On n'est pas tout seul sur la planète. Là. Il y a d'autres mondes ailleurs, en Asie. Moi, je comprends que les Chinois sont en avance avec le char électrique, mais les Chinois, il y a encore de la combustion.
Ben oui.
Ils consomment du pétrole la journée.
À l'heure.
Ben oui. Donc, il y a des pays où ils ne sont pas rendus là, les pays africains aussi, notamment. Voilà, fait que c'est ça qu'on voit ce matin. Les marchés boursiers sont verts, verts, verts. Alors, c'est des bonnes nouvelles pour les investisseurs. Moi, je pense que le mois d'août va être bon. Le mois de juillet a été flat pas mal. Le mois de juin était flat. Je pense que le mois d'août pourrait être bon. Après ça, on rentre dans les midterms. Là, septembre, octobre, ça pourrait être assez rock and roll. On va, ça, c'est très politique. Hein? Tu regardes les années des midterms, quand tu regardes les rendements à la bourse, il y a 18 % d'écart entre le bas et le haut. Quand tu rentres dans les années de midterms, comme là, on est là, 2026, aux États-Unis.
Comme un creux, un peu.
Bien, il y a un creux puis un haut. Mais il y a toujours de la volatilité parce que tout devient politique, parce qu'on veut se faire réélire aux élections de mi-mandat. C'est un peu ça qu'on voit. Là. Trump en rajoute, en met, il ressort. Un matin, Bessène dit que le détroit d'Hormuz va rouvrir aujourd'hui ou demain. Ils sont de même. Là. C'est très politique.
Oui.
C'est très, très volatile. Mais pense-y, là, en 18 % entre le bas. Si tu regardes le mois d'avril, là, le bottom qu'on a pogné au mois d'avril, et aujourd'hui, il y a à peu près ça, 17-18 % d'écart. Donc, c'est très, très comme ça, une année de midterms, d'élection de mi-mandat aux États-Unis.
Ouais.
C'est très volatile. Voilà. Hey, t'as pas essayé de sauter le pont de Brooklyn? Je sais pas si t'as vu.
Non, je l'ai marché, par exemple, quand je suis allé, il y a quoi, 2-3 ans avec ma fille.
C'est agréable, hein?
Super, c'est super beau, là. C'est vraiment une icône, le pont de Brooklyn.
Il y a un gars qui a sauté dimanche,
hein?
Du pont.
Ben voyons.
Il est monté en haut, il s'est déshabillé, il a sauté.
Ben voyons donc.
Et il a survécu.
Hein?
Ouais.
Il doit être magané, certain.
Ben là, on dit qu'à l'entrée à l'eau, il a resserré les pieds parce qu'il était tout nu.
Ben oui.
D'après moi, si tu rentres les pieds ouverts, tu reviens pas, là.
Ben parce que le pont de Brooklyn, là, ça là, c'est quoi? C'est une hauteur de quoi?
Ça, c'est assez haut, là. C'est comme le pont de Québec, à peu près.
La hauteur du pont de Brooklyn, ils disent que c'est... Bon, de long, OK. Une hauteur de 84 mètres,
ouais. Ben, c'est ça.
Hey!
Pour atterrir dans l'East River, qui est le fleuve, oui. Ou le cours d'eau en bas. Mais le pont de Québec, il y a quoi en hauteur?
Mais as-tu sauté du haut de la poutre en haut, ou juste le...
Oui, oui, du haut.
Ah, t'es un malade.
Oui, puis il était tout nu.
Voyons donc.
Et il a aussi été accusé de graffiti, d'outrage public à la pudeur, violation de propriété et trouble à l'ordre public.
Oui, ben je comprends. Là, à partir du moment où t'as quelqu'un sur le pont, eux autres, ils remarque, il n'y a pas de circulation, je pense, sur le pont de Brooklyn.
C'est à pied, hein?
Oui, me semble, je sais pas. Là.
Et les gens disant en bas, saute!
Ah!
Il disait sauter. Il a sauté. Capoté pareil.
Mais, il a survécu.
Oui, il a survécu. D'ailleurs, il y a. Gary connaît une dame qui a fait ça, hein? Pont de Québec.
Ah oui?
Sautant en bas, puis elle est tombée sur le dur, là.
Eh mon Dieu.
Ouais. Les pieds ont rentré dans le corps, mais elle a survécu.
Voyons, ben voyons donc.
Oui. Oui. Écoute, ça arrive.
Mais faites pas ça, là.
Non, je sais, là, faites pas ça, mais ça arrive. Là, je veux dire, tu manques ta shot.
C'est épouvantable.
Lui, dans son cas, je pense qu'il voulait mourir. Là, je veux dire,
ben, j'imagine. Là.
C'est comme le monde qui s'immole. Il a dit ça existe, là, du monde qui s'immole pour une cause. Il se met du gaz à la tête puis il allume l'allumette.
Complètement
puis,
débile.
Mais oui, tu grilles devant tout le monde.
C'est complètement débile.
Les Tibétains faisaient ça, notamment, pour la cause tibétaine. Ils s'immolaient.
Il faut que tu veuilles, Pierre, pense-y.
Tu étais au bout du bout. Là.
Tu étais à Christy, oui.
Voilà. Hey, hier, je suis allé au cinéma. Je suis allé voir, on va changer de sujet. Mais ça reste à peu près dans le même vibe. Je suis allé voir 125 Rue des Malaises.
Oui, le film avec Pierre-Luc Funk, Rémi Girard.
Ouais.
Il y a Guylaine Tremblay, Geneviève Schmidt est là-dedans.
Oui, puis François Legault.
Ah oui, il est dans le film.
Legault, comment il s'appelle?
J'ai assez aimé ça, là, faire ce film-là.
Comment il s'appelle Legault, le comédien?
Claude.
Claude Legault. Ouais, c'est ça. Hey, c'est
pas le même, Pierre.
Le cinéma était bien plein. La salle, ben c'est sûr qu'il mouillait hier.
Oui, c'est vraiment la meilleure soirée pour aller au clap. Là.
Ma blonde a dit, on va-tu marcher? Ben là, on peut pas aller marcher.
Hey, que... Pour vrai, hier, ça tombait à tabarouette.
Ça tombait. Salutations aussi à mon fils qui fait le tour de l'île d'Orléans à pied.
Ouais, bon, ben, ça a dû bien été hier. Ça a dû bien été, ouais.
Qui est parti hier.
Hey, pour vrai, hier matin, je disais, il va falloir qu'en fin de journée, je remplisse la piscine un peu parce que ça s'évapore. Plus besoin.
Non, c'est ça.
Elle est pleine à rabord.
Mon fils, je dis, vous êtes rendu où, là? Ah, ils ont été à Saint-François. Ils ont fait quand même un bon bout.
Ils font ça à pied.
À pied. Parce que là, c'est une grosse mode, hein? Tu sais, t'as Compostelle.
OK.
Là, il fait l'île d'Orléans à pied.
Bon. C'est le ressourcement. J'ai dit, là, à l'île.
C'est rempli de joie et de plénitude, ton affaire.
Absolument.
Puis il dit, on est rendu à Saint-François. Ben, ils ont quand même parti du début du pont. Ils ont marché toute la pointe du côté est. Ils se sont rendus jusqu'au bout de l'île.
Quand même.
Ils reviennent aujourd'hui. Là.
Ils par l'autre bord.
Oui, par l'autre bord. Mais Saint-François, c'est à l'autre bout, oui. Là, la pointe d'Argentenay qu'il appelle.
Oui, oui.
Il a mis sa tente là, il attendait. Lui, il regardait la météo. Il dit, je vais attendre qu'il arrête de mouiller. Je dis, oh, c'est une bonne idée.
Ben oui.
Mais il devait être trempé. Là. J'ai pas eu de détails au complet.
Ils sont courageux quand même. Mais quoi, l'île d'Orléans, c'est quoi, 30 km de long? C'est pas si pire.
30, mais ouais, tu le fais de même.
Ben là, tu vas faire 60, 65 km.
À peu près.
C'est comme si tu marchais, mettons, Berthier-sur-Mer, Québec.
Quand même une bonne ride.
C'est pas pire.
Ouais, c'est ça. Bon, je m'égare, mais...
Oui, 125 Rue des Malaises.
Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même capoté. C'est un bon film. J'aimais ça, un film québécois. C'est un huis clos. Là. Ça se passe beaucoup dans un chalet. C'est un... Je compterai pas le punch, là, mais... En fait, il y a pas de punch. C'est ça, l'affaire.
Ben, on dit que les acteurs ont fait beaucoup d'improvisation dans ce film-là.
Ouais, ben c'est tous qui étaient tous dans LNI, hein.
Ils ont capté ça en une journée.
Ouais, exactement. Et ça se passe dans un chalet. L'idée, c'est que, mettons, Nick Loutier,
ouais.
Il convoque sa fille, qui est ben, Rémi Girard, qui convoque sa fille, Geneviève Schmidt, qui dit, ben, t'es fille unique. Moi, j'ai décidé que le 17 du mois courant, je mets fin à mes jours. Mais le gars est en pleine forme.
Oui.
C'est ça l'affaire, c'est que l'aide médicale à mourir au Québec, si t'es en pleine forme, t'as pas droit. Tu peux pas décider. Tu peux te suicider, si tu veux, là. Mais tu peux pas avoir recours à l'aide médicale à mourir si t'es en forme.
Non, si t'as pas de maladie, là.
Faut que tu sois en phase terminale ou, ouais. Tout le moins, une phase où t'es plus là. Et il faut que tu ailles concéder ou que tu ailles décider avant que tu perdes la raison d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Si, par exemple, tu as l'Alzheimer puis tu es rendu à un niveau où l'Alzheimer affecte beaucoup tes facultés, mais si tu n'as pas convenu un peu avant, quand tu avais ta tête, que tu as droit à l'aide médicale à mourir, tu n'as pas le droit de l'aide médicale à mourir. Dans le cas du film, c'est pas clair. Lui, il dit qu'il va avoir recours à l'aide médicale à mourir, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Mais
OK, donc il va devoir trouver une solution.
Ben, il dit, je vais mettre fin à mes jours le 17 du mois courant. Fait qu'il fait venir sa fille. Puis, il y a un gars qui rentre dans la boîte, qui est Pierre-Luc Fong.
Oui.
Puis lui, c'est un fils hors mariage. Mais elle, okay. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas là, que son demi-frère existe. Et...
Fait qu'il y a comme toute cette...
Puis là, il y a la notaire, qui est Guylaine.
Oui.
Elle rentre, puis elle vient lire le testament devant tout okay. Le monde. Capoté. Puis Claude Legault, c'est le voisin du gars, okay. Qui est comme son frère depuis bon. Des années. Elle a s'est capoté. Mais ça
il
donne
pas
des...
pire parce que c'est. Ça paraît que, OK, ils ont une idée de base, mais le reste est improvisé.
Mais c'est très bon. Sérieux,
fallait,
là.
Fallait le faire.
C'est... Moi, je suis sorti de là. Puis en fait, c'est un film avec une ouverture. Il n'y a pas de. Puis là, elle, en plus, pendant le film, elle apprend que. Est enceinte aussi. Là, je suis en train de donner tout. Non, mais c'est bien fait, c'est bien tourné. C'est, écoute, mais la question de base, c'est est-ce qu'on peut mettre fin à ces jours sans avoir de pleine connaissance de cause, sans avoir à subir le jugement des autres? Parce que c'est ça aussi que ça pose comme question. Parce que lui, il décide de mettre fin à ses jours avec une date précise, mais il va tout manquer le reste. Puis il est encore en santé, là. Là, le voisin est en crise parce que Claude Legault, il dit, voyons, t'es un de mes meilleurs chums. Pourquoi tu t'en vas? Mais il dit, j'ai décidé, je partais cette journée-là. Sa fille, il dit la même affaire. Le petit jeune qui apprend que c'est son... Ben, qu'il y a une demi-sœur puis que lui, il n'a aucun lien avec, mais il commence à former des liens avec pendant le temps qu'ils sont ensemble dans le chalet. Parce que tout se passe dans un chalet, là, sur le bord d'un lac. Mais ça pose beaucoup de questions aussi sur l'aide médicale à mourir. Quand tu pars à bonne... au bon moment, parce que ici au Québec, quand on parle l'aide médicale à mourir, c'est parce que t'es malade, là. T'es rendu à un point.
Ben, c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que si, mettons, tu peux pas le savoir d'avance si tu vas être atteint d'Alzheimer ou d'une maladie dégénérative.
Ben, c'est ça.
Faudrait être capable de signer une espèce, un peu comme le don d'organes, de dire, ben moi, à partir du moment où on me déclare cette maladie dégénérative, ben je veux être consulté pour l'aide médicale à mourir.
T'sais. Ben, moi, je pense que tout le monde...
Avant de perdre la tête.
Je pense que tu... Ben, il y a des cas de génétique aussi. Il y a des gens qui ont l'Alzheimer ou encore le Parkinson. Ils l'ont vu venir, mais ils n'ont pas été... Ils n'ont pas pris les devants pour dire « Je veux l'aide médicale à mourir lorsque je serai peut-être dans telle ou telle condition. » Mais ça, peut-être que éventuellement, on va, comme un peu comme un don d'organes, on va avoir une petite coche pour dire « Est-ce que je voudrais avoir accès à l'aide médicale à mourir si jamais... » Puis là, tu coches ça au cas où. Parce que moi, là, je suis en pleine forme, tout va bien. Mais si je le cochais là, puis dans 5 ans, j'ai une maladie dégénérative qui va rapidement, je pourrais avoir accès à l'aide médicale à mourir plutôt que finir dans un lit couché à recevoir des soins.
Ben, moi, je voudrais pas être un fardeau ni. Tu sais, quand t'es plus capable de t'occuper de toi-même, moi, c'est là le point. Là.
Ben, c'est ce qui fait valoir. Rémi Jarre, il dit ma mère est arrivée, ça, puis je veux pas arriver là. Mais lui, il décide pleinement. C'est ça, c'est le dilemme, là. Quand tu pars, tu décides quand tu pars? Tu décides-tu quand tu es malade? Tu décides-tu parce que tu es rendu une maladie incurable ou tu y vas pleinement? Tu dis, gars, je suis satisfait de la vie que j'ai eue. Là, ça revient aussi.
C'est une Moses de bonne question.
Ça revient au suicide.
C'est... Oui, c'est unique à chacun, je pense.
Oui, c'est ça. Tu sais, c'est du monde qui se suicide puis tu dis, voyons.
Tu veux pas arrêter ça? Hey, c'est... Pierre Pazzi, là. Tu décides que là, t'en as assez fait.
Oui.
Moi, je pense que je voudrais encore continuer dépendamment de l'état de santé. C'est toujours ça, là.
Mais si tu sais que tu vas finir Parkinson parce que dans ta famille, il y a ça, ou Alzheimer ou autre, là, tu dis, ben moi, je pars là. 17 du mois courant, c'est terminé. Je pars, je m'en vais. Non, c'est un très bon film. Allez voir ça. Puis il y a des très bons punch, il y a des très bonnes répliques. C'est très drôle parce que c'est des malaises tout le long. C'est tout, le monde, tout le monde pile sur des tout le monde est dans des zones un peu très... pas mal... zone d'ombre, hein, un peu à gauche, à droite.
En effet.
Non, c'est très bon. Alors voilà, je voulais vous partager ce petit bout.
Mais ça a l'air que c'est un très bon film.
Oui, non, puis en plus, ils ont tapé le million de rentrées et ça fait 2 semaines qu'il est en salle.
Oui.
J'avais choisi ça. Françoise n'était pas au menu. François, ça ne m'intéresse pas du tout, là, ce film-là, de comment il s'appelle?
C'est de Louis Morissette.
C'est ça.
Je sais pas si tu as vu, je sais que tu étais en vacances la semaine dernière, mais il a pété une solide coche à Cube Radio.
Oui, j'ai vu ça. Oui, ben c'est ça. Ils boivent le Kool-Aid de Radio-Canada, puis ils viennent complètement fous.
Oui.
Complètement débiles. Avec toutes sortes de cigans, puis d'hommes blancs, puis de patentes, puis ci, puis ça. Là, ils deviennent fous.
Mais c'est là que tu vois que finalement, peut-être que Morissette pensait que ça allait intéresser des gens, puis tout le monde s'en fout.
Ben, c'est parce que moi, je veux dire, t'es trans ou je sais pas trop quoi. Ça me mettait. Tu sais, je vous ai
fait. Tes affaires.
Fais ta vie. Si t'es heureux comme ça, en robe, tu sais, je sais pas, Nick, te caresses-tu de mettre une robe un jour? Je sais pas.
Si je veux mettre, non.
Mais tu sais, je sais pas.
Non, je sais pas.
C'est entre toi puis toi, là. C'est dans ton fort intérieur. Moi, j'en ai rien à
dire. Je t'appellerai si jamais ça me pogne.
Ouais, c'est ça. Non, non, mais je veux dire, moi, si t'es heureux comme ça, vas-y, là. Je veux dire, puis écœure pas le monde avec ça. C'est sûr, là, que tu vas te faire juger, là. C'est sûr, tu sors de la norme, là. Dès que tu sors de la norme, tu sais, nous autres, on t'a Radio X. Il y a plein de monde qui nous juge sur les réseaux sociaux parce qu'on est à Radio X, ils n'ont jamais écouté Radio X de leur vie. Mais tu sais, c'est comme un trans, c'est comme, regarde, ça arrive. Let's go, continue. Puis moi,
fais ta vie, c'est
ça. Je t'encourage, vas-y.
Mais fais ta vie en fonction du cadre qu'on a déjà. Là. On ne peut pas tout changer parce que tu as une minorité de personnes.
Ben, c'est ça, c'est les accommodements, là. Puis là, on est pas mal là-dedans des accommodements. En tout cas, regarde, voilà. Y a beaucoup d'actualités, 10h40. On va jaser avec Rodolphe Osny, notre chroniqueur politique. Il veut pas, il y a des partiels hein, au fédéral.
Ben oui, en même temps que la campagne provinciale va être déclenchée.
On parle du 27 août, possiblement, pour le début de la campagne au provincial. Ça arrive vite, là. C'est dans moins de 20 jours. C'est 3 semaines. Dans 3 semaines, on sera en élection, Nick, au Québec.
Oui, oui. Pour ce qui est du fédéral.
Non, mais au Québec.
Au Québec aussi.
On parle du 27 août.
Ouais, ça ferait 5 semaines de campagne?
À peu près, ça nous amènerait au début octobre.
Ouais, ça a du sens.
Dans le cas du fédéral, c'est le 31 août, je pense, ou le 30.
Le vote?
Ouais.
Ben, tu vois.
Fait qu'il va faire ça en pleine. Puis, je sais pas si tu as vu, là, il y a des sondages qui commencent à sortir, notamment au Saguenay, parce qu'il va y avoir une partielle au Saguenay. Et les libéraux sont en tête, les conservateurs sont deuxième et le bloc est troisième. C'est pas donné, là, pour le bloc. Le bloc
non, mais d'après moi, Carney va passer.
Va passer à
gratte. Ben oui. Pas passer à gratte, mais je pense que son pari de donner le Sénat à Richard Martel va payer.
Ah, mais Richard Martel, pourquoi il a accepté ça?
Je sais pas, le deal devait être bon, Pierre.
Parce que, tu sais, Richard Martel, on comprend, c'est un député, là, ancien entraîneur de hockey. Mais lui, il a accepté ça de Carney. En même temps, t'es nommé sénateur. Habituellement, le Sénat, c'est apolitique, hein? On est rendu ça, là, supposément, là. Il n'y a plus de...
C'est ce qu'ils disent.
C'est ce qu'ils disent, mais quand tu regardes un peu les allégeances, lui, l'allégeance, il est conservateur, là, Richard Martel.
On comprend qu'il était élu sous la bannière conservatrice.
Mais moi, je regarde Carney aller, puis est-ce qu'il gouverne comme un libéral ou...
Non, il fait beaucoup de politique.
Beaucoup de
politique. C'est vraiment un politicien, Pierre. Magouillage, puis les transfuges qu'il est allé chercher, puis le Richard Martel.
Fait que voilà, c'est ça. Ben, on va en parler avec Rodolphe Osny autour de 10h40. Il y a plein d'affaires. Hey, Zelensky fait jaser parce que là, ça se passe en Europe. C'est plusieurs médias qui rapportent ça aujourd'hui. C'est l'ancienne porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle s'appelle Yulia Mendel. Elle, c'était son ancienne porte-parole, Nick. Et elle, ce qu'elle dit, c'est qu'autour de Zelensky, actuellement, il y a de la corruption, il y a de l'abus de pouvoir comme jamais. Elle dit qu'il y en avait avant, il y en a eu pendant, et il y en a toujours. Et elle dit qu'il faut que la guerre arrête actuellement. Là, elle se fait traiter de pro-russe, évidemment, mais c'est une Ukrainienne. Je ne sais pas si elle est en exil. Elle parlait du côté de Paris, du côté de la France. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'autour de Zelensky, actuellement, il y a beaucoup d'argent. Et c'est des fonds qui viennent de partout dans le monde. Vous le voyez, les Américains donnent de l'argent. Les Canadiens, le Canada donne beaucoup de milliards à l'Ukraine. Et là, elle dit qu'il y a un niveau de corruption qui a été atteint autour de l'entourage de Zelensky. On essaye de faire le ménage, mais on voit l'argent arriver. C'est des valises, puis les gens repartent avec des valises, puis on ne sait même plus où l'argent part. L'argent part dans des paradis fiscaux.
Corruption.
Et carrément. Elle a dit là, qu'il va falloir qu'il se passe de quoi, mais entre-temps, on joue le jeu. Hein? Je ne sais pas si tu as vu. On joue le jeu. Les Occidentaux, les Européens ne veulent pas lâcher le morceau du côté de l'Ukraine. On continue la guerre avec la Russie. Mais en même temps, je veux dire, là, écoute, combien de milliards?
Je sais pas combien.
Des centaines de milliards là, qu'on a pompé là. Les Canadiens, on est rendu à quoi? 40, 35?
On en donne.
C'est à peu près quoi? 35, 40 milliards à peu près qu'on a donné du côté de l'Ukraine. On donne de l'armement, on achète de l'armement par l'entremise de compagnies. Puis elle a dit, non, elle a dit là, il y a vraiment un niveau de corruption atteint en Ukraine. Vous n'avez aucune idée comment c'est rendu.
Moi, je vois deux. Attends, le Canada, attends, 2 milliards de plus. Oh, oui, on en a donné là, 2 milliards, plus de 2 milliards, Pierre.
Récemment?
Oui.
Ben, en tout et total, tout. D'après moi, on est rendu à 25. Je ne sais pas, les auditeurs.
Un petit peu, j'étais en train de regarder là, sur les. Au mois de mai, on disait que le Canada. Les fonds qui ont été réenvoyés, puis encore et encore, là, portent le montant total de l'aide financière du Canada à l'Ukraine à 25,8 milliards.
On a redonné un 2 récemment. Donc, c'est 27
ça,
milliards.
Ça, c'est au mois de mai.
27 milliards canadiens. Hey, c'est de l'argent, là. Donc, on est là-dedans. Et là, elle, c'est une proche. Elle a été proche de Zelensky. Je pense plus qu'elle l'est, là. Mais elle dit que la corruption, les détournements de fonds ont atteint un niveau exceptionnel. C'est sûr que du monde vont s'en mettre plein les poches, là, là-bas. Quand il y a des guerres comme ça, l'argent comment à transite. On a vu aussi des images du clan autour de Zelensky, des parties dans des villas en Suisse. Et,
On en a vu des affaires. Là. L'argent va où?
Ben c'est ça, exactement. Fait qu'on est là-dedans beaucoup. Bon, notre invité, il est là.
Yes.
On va parler avec Vincent Paquette, analyste principal des politiques chez la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Monsieur Paquette, comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Oui, ça va bien. C'est l'été, mais quand même, les nouvelles sont assez importantes, là, notamment concernant l'entrepreneuriat au Québec. On voit le nombre d'entrepreneurs baisser de façon significative au cours des dernières années. Est-ce que c'est inquiétant pour vous?
C'est vraiment inquiétant. Écoutez, on fait des sondages beaucoup à la FCEI. Puis une dernière clé là, que j'aime répéter, c'est qu'on a demandé, est-ce que vous conseilleriez de vous lancer en affaires en ce moment? Puis il y a 59 % des propriétaires d'entreprises au Québec qui ont dit non, on déconseillerait de se lancer en affaires. Donc,
C'est gros, hein?
C'est vraiment alarmant. Oui, vraiment.
60 % des propriétaires de PME au Québec qui disent si vous aviez à refaire ou conseiller quelqu'un à aller en affaires, vous dites non?
Exact. C'est super alarmant. Puis quand on leur demande pourquoi vous dites ça, bien, il y en a 85 % qui disent bien, les coûts d'exploitation en ce moment sont trop élevés. 74 qui disent il y a trop de réglementations gouvernementales, puis 65 % disent il y a trop d'impôts, il y a trop de taxes au Québec. Donc, je pense que c'est trois voies pour le Québec, là, pour le gouvernement, le prochain gouvernement, s'il veut là, régler là, ce déclin entrepreneurial ou, comme nous, on appelle ça à la FCEI, une pénurie d'entrepreneurs, là, c'est trois avenues que le gouvernement devrait explorer.
Et c'est pas parce que la FCEI ne dit pas depuis plusieurs années si on s'en va dans le mur puis on va l'atteindre. Le gouvernement aurait pu écouter la FCEI et autres organisations. D'entrepreneurs, mais ils ne l'ont pas fait.
Ça fait des années là, qu'on répète au gouvernement là, que les PME du Québec paient trop de taxes. Puis on a des règles uniques là, qui désavantagent les entrepreneurs québécois. Je peux vous donner un exemple. Là. Toutes les provinces au Canada ont ce qu'on appelle la déduction pour petite entreprise. Donc, sur le premier 500 000 de revenus qu'une entreprise fait, elle paie un taux d'impôt réduit. Au Québec, ça a été diminué récemment, là, c'est 2,2 %. Mais si une entreprise déclare moins de 5 500 heures rémunérées, elle n'a pas accès à ce taux d'impôt réduit. Donc, au final, ce que ça veut dire, c'est qu'on pénalise les petites entreprises. Puis c'est juste le Québec qui a cette règle-là. Donc, nous, on milite là, justement pour niveler le jeu pour que les entrepreneurs québécois aient des chances égales comparativement à leurs comparses canadiens.
Le fait aussi qu'il y a des PME qui ont juste un employé ou deux sont pénalisés, hein, je pense, par rapport au reste du Canada. On a un taux d'impôt plus élevé au Québec.
Puis c'est en plein ça. Puis ça a des avantages aussi des entreprises qu'ils peuvent connaître une mauvaise année. T'sais, souvent, les entreprises de contrat, bien, quand l'économie roule, ils ont plus de contrats, ils réussissent à faire plus d'heures, donc ils ont un meilleur taux d'impôt. Puis là, l'année suivante, moins de contrats, ils font moins d'heures, puis là, bang, ils sont pris avec un taux d'impôt plus élevé. Donc, tu sais, c'est vraiment illogique, puis ça pénalise les entreprises qui ont une moins bonne année au final.
Oui, puis quand vous arrivez dans un huis clos, il y a toujours, quand il y a des budgets, hein, il y a toujours des. On recueille des mémoires. La FCEI, à chaque année, vous faites des mémoires, vous rencontrez les dirigeants, les politiciens. Vous leur dites tout ça, mais on dirait que c'est comme ça passe comme si de rien n'était. Et là, on a atteint un plancher, quoi, 123 000 entrepreneurs au Québec. On a les chiffres là, à peu près officiels. C'est un plancher historique, je pense.
Tout à fait. Puis c'est super inquiétant parce que plus il y a de PME, plus l'économie au Québec fonctionne bien. plus il y a de compétition, puis au final, plus il y a de compétition, plus les prix diminuent, ce qui avantage les consommateurs. Donc, une PME, ça permet d'innover, ça permet d'accroître la compétition, puis le fait qu'il manque d'entrepreneurs, parce qu'on s'entend que quand on se lance en affaires, on commence par une PME, puis si ça va bien, on devient une moyenne, puis une grande entreprise. Bien, le fait que ça ne se renouvelle pas, ce cycle d'entreprise-là, bien, au final, c'est l'économie du Québec qui est pénalisée.
Oui, puis l'économie canadienne, on regarde les chiffres, l'économie du Québec, c'est stagnation depuis plusieurs années. Là, on est à 0,2, 0,1 % par trimestre. Qu'est-ce qui peut être fait? Taxe carbone, est-ce qu'on enlève ça?
Absolument. Le Québec, c'est la seule province qui a encore une tarification du carbone. Nous, à la FCI, on a lancé une pétition justement pour que le gouvernement règle cette injustice-là encore une fois. C'est des coûts d'exploitation qui sont encore plus élevés pour les entreprises du Québec. Puis quand on leur demande qu'est-ce que vous faites pour absorber la hausse du prix du carburant, bien, certaines entreprises disent, là, je dirais 60 % si je me rappelle bien, ils vont nous dire, nous, on absorbe nos coûts, les coûts de la tarification au carbone parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des clients. Mais il y en a quand même 30 % qui vont nous dire, bien, nous, on n'a pas le choix de refiler cette facture-là aux consommateurs. Donc, on voit que c'est néfaste pour les entreprises puis pour les citoyens du Québec.
Oui, mise en chantier, délivrance des permis plus lent, processus d'autorisation et délivrance des permis qui ralentissent les mises en chantier.
Effectivement, encore une fois, là, les développeurs immobiliers au Québec, ils sont freinés. Puis ça, c'est des règlements municipaux. Fait que oui, on fait aussi une tournée des municipalités au Québec là, pour leur dire qu'il faut accélérer la livraison des permis parce que c'est encore une fois un désavantage pour les entreprises québécoises. Puis dernière chose aussi, mais qu'on est dans la paperasse, ben tu sais, un entrepreneur en moyenne passe 32 jours à remplir des formulaires gouvernementaux.
Combien de jours par année?
32.
32 jours.
Fait que, tu sais, quand on dit, moi, je vais me lancer en affaires, mais quand tu fais en affaires, c'est que tu as un rêve que tu veux réaliser, mais là, tu arrives pour réaliser ton rêve, puis là, tu es enseveli de paperasse. Fait que c'est sûr que c'est dissuasif pour l'entrepreneur, là, tous ces formulaires gouvernementaux-là, mais je vais lancer une fleur au gouvernement, là, ils ont sorti une nouvelle politique d'allègement réglementaire, puis elle n'a pas encore passé l'épreuve du temps, là, mais elle semble très bien. Là. On a une règle du 2 pour 1. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle formalité administrative est amenée, il y en a deux qui sont retirées. Puis ça, on est les seuls au Canada que ça.
Okay.
Fait que là, maintenant, à voir est-ce que ça va donner un avantage comparatif au Québec à suivre.
On dirait que certaines mesures dont vous faites mention sont écoutées par le gouvernement à certains niveaux. Vous parlez des permis tantôt au niveau des municipalités. Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce qu'on a l'intention de faire des changements?
Une collègue et moi, on a fait une tournée municipale de plusieurs grandes villes du Québec pour leur justement signaler ce problème-là. Je vous dirais qu'ils nous écoutent du côté paperasse. Là, je pense que c'est une solution à coût nul pour les municipalités.
Ouais.
Là, faire un audit de leur formulaire puis des permis. Mais quand on touche le sujet de l'impôt foncier, là, ça se braque rapidement. Donc, je pense que c'est encore un sujet tabou. Mais malheureusement, ça empêche les entreprises de faire des investissements sur leurs bâtisses parce que si l'évaluation municipale augmente, ben eux, ils payent plus d'impôts.
Ouais. Éco-frais, consigne action, ça aussi, c'est un beau bordel.
Tout à fait. Là, ben, là, ça fait longtemps qu'on crie là, consigne action, la modernisation de la collecte sélective. Hein, c'est des coûts supplémentaires qui sont refilés aux entrepreneurs. Puis on a vu des hausses de factures de 200 %. Là, c'est énorme là, pour une petite PME là, de voir sa facture des entreprises Québec monter de 200 %. Puis là, eux, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Puis le gouvernement ne fait pas grand-chose non plus.
On parle de 20 000, 30 000, 40 000 $ pour certaines entreprises. Dépendant du volume d'affaires que tu as aussi, mais certaines parlaient même $1 million de plus à payer là, pour les éco-frais. Donc, on ralentit nos entreprises pendant que dans le reste du pays, dans le reste du monde, on essaye de faciliter la vie à nos entrepreneurs. Ici, on se demande pourquoi on est rendu un plancher historique au niveau de termes d'entrepreneurs. Bien, c'est tout ça, hein? C'est l'environnement fiscal qui est très lourd.
C'est ça. Puis, tu sais, je dirais même que les Québécois, ils ont pas peur de se lancer en affaires. C'est que c'est l'environnement d'affaires qui est tellement contraignant, dissuasif, que ceux-là, il faut juste le regarder deux, trois minutes, puis ils font « ben, ça vaut pas la peine ».
On va travailler. Voilà. Ouais, mais on va travailler au gouvernement, on va travailler ailleurs, on va dire « ben, je vais passer mon tour, c'est, l'environnement n'est pas intéressant ». Il y a ça aussi. Le gouvernement offre des emplois peut-être attirants, 100 000 $ par année, puis 8 à 4, tu fermes l'ordinateur, c'est terminé.
Exact, puis tu as un gros fonds de pension qui vient avec. Fait que les gens, ils font le choix sécuritaire. Mais si le gouvernement misait plus sur l'entrepreneuriat, puis t'sais, le reprenariat aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est une avenue aussi, là, c'est pas tous les gens qui ont à se lancer en affaires. ils peuvent décider d'acheter une entreprise qui fonctionne déjà bien, mais on en parle peu. On commence à en parler, puis à la FCI aussi, là, on veut faire des projets pour mettre en valeur le reprenariat. Parce que c'est pas vrai qu'on est obligé de se lancer en affaires de partir de zéro. Là, on peut justement continuer l'œuvre de quelqu'un.
Est-ce qu'on a un problème d'image au niveau des entrepreneurs au Québec? Parce qu'on a vu des partis politiques dans les derniers mois parler de taxer puis de dire que les entrepreneurs étaient comme des espèces de voleurs puis des espèces de gens qui sont tout le temps à l'affût du dollar alors que c'est eux qui créent des emplois au Québec.
À mon avis, je pense que c'est une minorité qui crie fort. Je pense pas qu'on ait une aversion aux entrepreneurs. On parle souvent de ces multimillionnaires-là qui s'affichent, ouais. Mais tu sais, l'entrepreneur, là, le garagiste du coin, le coiffeur, le boulanger, eux, les gens les respectent. Puis c'est eux qui ont besoin de plus d'aide. T'sais, on parle de l'impôt réduit, de la paperasse, c'est vraiment eux qui sont pris dans ça. Puis je pense qu'il n'y a pas une haine envers ces personnes-là au Québec.
Ouais, puis tu regardes le revenu moyen des entrepreneurs au Québec, c'est pas des centaines de milliers de dollars par année, en passant. Là, hein? C'est des revenus. Il y a des entrepreneurs dans la restauration, notamment, qui font 50 000 $ par année là, de salaire.
Effectivement, puis c'est ça. Ils ont des marges de profit super serrées, puis chaque nouvelle réglementation du gouvernement vient encore plus diminuer ces marges-là. Donc, eux, tu sais, ça leur donne pas le goût de continuer en affaires. Là. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plus d'entreprises qui ferment que d'entreprises qui ouvrent en ce moment.
Ouais. Là, on s'en va en élection. Le message de la FCEI, vous allez rencontrer les partis politiques, vous allez leur dire quoi?
Qu'il faut régler le taux d'impôt réduit, là, la règle des 5 500 heures, c'est un non-sens pour nous. La taxe carbone, le gouvernement Fréchette l'a déjà fait, l'a déjà aboli pour le secteur agricole.
Oui.
Pourquoi il ne le ferait pas pour les autres secteurs? La paperasse, on va continuer à frapper là-dessus pour que les entrepreneurs ne soient pas ensevelis sur des formulaires gouvernementaux.
Vincent Paquette, analyste à la FCEI, merci beaucoup de vos lumières, on s'en reparle, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Voilà.
Hein? Faut donner envie aux gens de se partir en affaires. Faut que ce soit simple. Faut pas qu'avant même que tu aies commencé, tu aies des bâtons dans les roues, Pierre.
32 jours de paperasse par année.
C'est épouvantable.
Ah, puis ça, regarde, moi, quand je fais mes acomptes provisionnels.
Ouais, t'aimes ça, hein? T'es content, hein? Puis tes taxes, Pierre.
Je suis content d'avoir une comptable parce que
C'est ça, mais là, tu payes pour ça.
Ouais. Oui, c'est pas donné, là, une comptable. Là. Elle fait sa job. Là,
mais alors, tu payes?
Oui, il faut que je paye. Puis c'est pas donné, je te le dis.
Puis elle charge parce que Christy est tellement douée.
Je serais surpris de voir.
Je comprends.
Puis je suis une petite entreprise. Là. Je veux dire, moi, je suis solo entrepreneur. Mais moindrement que tu as une couple d'employés. Là,
Ça, petit, il y a une autre affaire aussi. Je sais que c'est un autre sujet, mais... Au lieu d'inventer 10 000 projets, j'exagère, là, des milliers de programmes.
Ben oui, des programmes
pour que certaines entreprises vont se dire, hey, on n'a pas besoin de ça, mais il y a un programme, on va aller chercher l'argent. Mm. Ben, mets-en moins, puis laisse l'argent dans les poches des entrepreneurs. Puis enlève-leur de la paperasse.
Mais les policiers, eux autres, ils veulent être dans game. Ils veulent être dans photo.
Hey, y a des entreprises, Pierre, maintenant, j'ai vu ça cet été, qui se spécialisent dans ta recherche de subvention, on va trouver le bon programme pour toi.
Exact.
Là, c'est pas drôle, là.
C'est un livre, hein, assez épais, là. Livre de subvention.
Enlève-moi ça, laisse l'argent dans les poches des entrepreneurs.
Hey, c'est rendu que la Ville de Québec donne des subventions aux entreprises par des programmes, notamment à l'époque, c'était des programmes sur les technos, puis ça a été transformé. Puis là, Régis Labonte allait chercher ça pour donner ça à Atlage. Puis là, on donne l'argent à des entreprises, les politiciens qui ont de vie une mort, puis ils choisissent les gagnants. Au lieu de dire, ben regarde, on baisse la pression fiscale, on rend l'environnement intéressant, puis on veut créer des emplois. En bout de ligne, c'est ça, là. Parce qu'un emploi de fonctionnaire, c'est payé avec l'argent du privé. C'est le gouvernement qui vient chercher de l'argent dans vos poches pour payer des fonctionnaires. Ça marche pas. Ça peut pas marcher éventuellement.
Mais
non. Il va falloir qu'il y ait... Puis on a des déficits de quoi? 8, 9, 10 milliards à Québec?
Il y a du ménage à faire.
Très, très gros
ménage. Il faut donner le goût aux gens de venir investir puis de bâtir des entreprises ici. Puis là, pour l'instant, c'est pas ça qui se passe.
Il y a des jeunes entrepreneurs là, de Québec, du Québec, qui partent puis qui s'en vont à l'étranger. Là. S'en vont partir leur business dans des environnements d'affaires où c'est plus intéressant. Il y a ça aussi qui existe. Voilà, après la pause,
ouais.
Rodolphe Osny débarque. On parle de politique puis de tout ce qui est l'environnement, là. Les élections s'en viennent, ça commence à... C'est drôle pareil, hein? On est quoi? On est au mois d'août, là?
Ouais, le 4 août.
Élection dans 24 jours, général, puis c'est tranquille, hein? C'est comme si...
Ils sont partis en vacances. Là, c'est le calme avant la tempête, Pierre. Là, Christine, elle a fait son show. Là, je pense qu'elle est partie en vacances. Charles Milliard, il est là. qui a dit dans sa publicité.
Ça n'a pas été une grande sortie la semaine dernière, milliards.
Ceux qui travaillent à date, là, ce que j'ai vu.
PCQ.
PCQ sont sur le terrain. D'après moi, la CAQ est sur le terrain aussi.
PQ là. Sur le terrain aussi.
Parti québécois aussi, oui, oui. Il y a 2-3 semaines, j'ai sorti dans mon comté, je suis de la Chaudière à l'épicerie, là, à Brickville, puis le Parti québécois remettait des cartes pour faire la promotion de Serge Bonin.
Renaud Labrec, je l'ai vu.
Oui, ça se promène.
Du moins, il est sur le terrain. Sur le terrain. Les travailleurs sont sur le terrain. On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy.
Radio X.